Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver, fidèle au rendez-vous de ce magazine qui vous propose un regard sur 7 jours d'actualité grâce à la diversité des reportages de la rédaction. Nous irons ainsi aujourd'hui au Mexique, en Russie, aux États-Unis, mais aussi en Tunisie, au Nigeria et au Congo, Brazzaville. Vacances et été oblige, nous allons parler du tourisme dans ce numéro avec notre invité Thomas Daume, co-auteur avec Eudes Girard d'un livre passionnant qui s'intitule « Du voyage rêvé au tourisme de masse », un ouvrage publié au CNRS Édition. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Avant de parler tourisme avec Thomas Daume, tourisme de masse, revenons sur l'élection présidentielle importante qui a eu lieu dimanche au Mexique. Andrés Manuel López Obrador a obtenu une large victoire, offrant un premier succès historique à la gauche, dans un pays, on le sait, confronté à une vague de violence sans précédent. Mexico ce jour-là, John Patrick Buff.
Andrés Manuel López Obrador considère ce dimanche comme un jour historique car en l'élisant, une majorité de Mexicains a décidé d'opter pour une transformation profonde du Mexique, une transformation qui passe par l'éradication de la corruption.
Este mal es la causa principal.
Ce mal est la cause principale des inégalités sociales et économiques. C'est aussi à cause de la corruption qu'a éclaté la violence dans notre pays.
En nuestro país.
Par conséquent, éradiquer la corruption et l'impunité sera la mission principale du nouveau gouvernement.
Il a également évoqué ses futures relations avec le gouvernement des États-Unis sans pour autant prononcer le nom de Donald Trump.
Nous cherchons une relation d'amitié et de coopération pour le développement toujours basé sur le respect mutuel et la défense de nos Mexicains migrants qui vivent et travaillent honnêtement dans ce pays.
Enfin, il a assuré les Mexicains qu'il ne les décevrait pas, car il prétend vouloir laisser dans l'histoire l'image d'un bon président.
Restons dans la région, un peu plus au sud, au Venezuela, que le président américain Donald Trump rêve, figurez-vous, d'envahir. À Washington, Anne Campé, mercredi, le jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis.
Lorsque Donald Trump avait publiquement déclaré qu'il n'excluait pas l'option militaire pour résoudre la crise au Venezuela en août dernier, personne ne l'avait réellement prise au sérieux. Cette petite phrase avait suscité une sèche riposte du président Maduro et avait vite été oubliée. Mais selon l'agence Associated Press, le président américain a réellement envisagé une telle opération. AP rapporte que Donald Trump a évoqué cette option une première fois lors d'une réunion de son cabinet, à la stupéfaction de son ministre des Affaires étrangères et de son conseiller à la sécurité nationale, qui l'ont aussitôt vivement écarté. Mais Donald Trump a persisté. Il en aurait ensuite discuté avec le président colombien, Juan Manuel Santos, qui lui aussi aurait fait part du danger de telles manœuvres. Le sujet aurait été une dernière fois abordé en septembre, lors d'un repas pris en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec 4 dirigeants latino-américains. Mes conseillers m'ont demandé de ne pas vous poser la question, mais êtes-vous vraiment opposé à une opération militaire au Venezuela, aurait interrogé le président américain. Les 4 chefs d'État ont confirmé. Donald Trump y a finalement renoncé. En ce mercredi férié, la Maison-Blanche a refusé de commenter ces révélations, mais elle risque fort d'alimenter la propagande vénézuélienne qui ne cesse de brandir la menace d'une intervention armée américaine.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Thomas Daume.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de géographie et vous avez signé avec Eudes Girard ce livre « Du voyage rêvé au tourisme de masse » avec une splendide couverture d'ailleurs qui évoque les plages bondées de l'été. Mais c'est vu de haut et c'est très coloré, c'est très joli. C'est plus joli vu de loin que de près en quelque sorte,
oui.
C'est sûr. Et vous nous offrez donc cette enquête sur le tourisme aujourd'hui. Et vous mettez dans ce texte une citation d'un auteur britannique qui s'appelle George Miles, qui dit écrit ceci: « La maladie du voyage est une affection moderne qui s'est développée de manière incontrôlée depuis la moitié des années 50 et qui continue de faire des ravages. Cette maladie a pour nom scientifique Travelitis furiosus et prolifère grâce au virus de la prospérité. » Je crois que c'est écrit dans les années 50, ça s'est pas rangé depuis.
Non, pas du tout, oui. Le tourisme international connaît une croissance qui ne cesse pas, de 4% depuis une dizaine d'années. Hein, on atteint aujourd'hui 1,3 milliard d'arrivées touristiques internationales. Et certainement que c'est effectivement au lendemain de la guerre que plusieurs facteurs ont convergé pour une montée en puissance de ce tourisme international. 25 millions de personnes seulement autour de 1950.
Ah oui, 25 millions et plus d'un milliard aujourd'hui.
Tout à fait, oui. Ouais. Hein, donc la croissance est extrêmement forte, hein, bien au-delà de la croissance de la population elle-même. Et puis donc, je pense que c'est à la fois effectivement une élévation générale du niveau de vie, un temps de loisirs de plus en plus important, mais ça c'est assez quantitatif. Hein, je pense qu'il y a également aujourd'hui, dans le voyage international, dans sortir des frontières, il y a une dimension culturelle psychologique, hein, qui est celle d'un statut que les Occidentaux et puis maintenant les classes moyennes d'un certain nombre de pays, hein, veulent acquérir, hein, être capable de sortir des frontières, le raconter aux amis ou aux collègues, l'afficher sur des réseaux sociaux. C'est montrer qu'on a un statut différent des autres, de ceux qui restent enracinés. Et cette dimension psychologique, à mon avis, est déterminante.
Alors, question simple, mais qui est sans doute compliquée. Comment calcule-t-on le nombre de touristes? C'est l'arrivée dans un aéroport, par exemple, ou...
Voilà. Alors, l'Organisation mondiale du tourisme ne peut calculer et ne calcule donc que les arrivées touristiques internationales, hein, qui peuvent être évaluées de manière assez précise aux aéroports ou bien par le franchissement des frontières. 1,3 milliard en 2017. Mais qu'il faut distinguer au nombre de touristes internationaux, puisque parmi ces arrivées, certains font plusieurs voyages dans l'année, hein, et pour le coup, le nombre de touristes internationaux est difficile à évaluer, et donc on est autour de 800, 850 millions de personnes.
En tout cas, la menace aujourd'hui, enfin qui est vécue comme une vraie menace, c'est ce phénomène massif d'une population sur un lieu touristique, dans une ville ou...
Tout à fait, et notamment par un certain nombre d'habitants, hein, des lieux comme Barcelone ou Dubrovnik, qui aujourd'hui sont entrés pour certains en rébellion.
Venise aussi.
Hein, Venise également, et puis on se souvient des attentats en Corse, hein, contre les villas des continentaux également. Donc c'est vécu comme une menace, tout à fait, du fait de l'importance, et notamment parce que non seulement le tourisme augmente de manière très importante, mais il tend à se concentrer sur finalement un certain nombre d'espaces assez réduits. S'il était étalé mathématiquement sur toute la surface du globe, il serait pas si important que ça. Mais le tourisme a une tendance à la concentration sur des espaces réduits, même s'il se disperse sur un nombre de pays croissant.
Alors d'évidence, ce tourisme s'est développé grâce à l'avion. Vous nous rappelez d'ailleurs dans votre livre, qui est très intéressant, qu'il y a à peu près quelques 100 000 vols par jour.
Tout à fait, des vols commerciaux, il y en a un nombre très très important. Et puis des dizaines de milliers de personnes sont en permanence en l'air, si je puis dire, à l'instant T, et circulent d'un pays à un autre.
Alors un auditeur vient de nous écrire, il s'appelle Samy, il lui dit que les touristes sont envahissants, mais il croit au tourisme durable. On y reviendra tout à l'heure, vous êtes un peu plus sceptique. Hein.
Tout à fait, je pense qu'il y a un paradoxe important dans le tourisme durable.
C'est presque un oxymore, dites-vous.
Oui, tout à fait, parce que dans le tourisme durable, de toute façon, le tourisme, par sa présence même, son développement, dégrade en fait, exerce une empreinte écologique sur l'espace qui est difficilement contrôlable.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, vous prenez des exemples français, des exemples dans le monde entier aussi, Thomas Dhaume, c'est que vous insistez sur la motivation du touriste, des touristes, en quête, toujours, la plupart du temps, d'authenticité.
Oui, c'est le grand paradoxe structurel de l'activité touristique. Hein. C'est d'un côté la recherche d'une authenticité, des espaces, des lieux qui n'auraient pas été trop visités, des populations que l'on pourrait voir vivre comme ça, un petit peu en observation sans les déranger. Or, par principe, sa présence même dérange l'activité. Et de toute façon, ce touriste veut un certain confort, une certaine sécurité. Donc, il attend que l'espace ait été transformé et adapté pour lui. Ouais. Et donc là, on est au cœur d'une contradiction très forte dans le tourisme international. Et
d'ailleurs, vous dites, il y a même des exemples très caricaturaux de villes qui se sont transformées pour le touriste en quête d'authenticité, entre guillemets. Mais enfin, d'évidence, il faut aussi signaler que le tourisme est devenu un phénomène économique.
Oui.
Il n'y a pas un lieu, une ville qui ne fasse pas la chasse, en quelque sorte, aux touristes.
Tout à fait. Le tourisme, aujourd'hui, c'est dans le monde entier un emploi sur 11. C'est pour les espaces occidentaux, européens en particulier, c'est un substitut à la désindustrialisation. Hein, c'est une activité économique qui peut remplacer, pense-t-on, et pour une partie c'est vrai, les activités industrielles en réduction. Aujourd'hui 7,3% du PIB en France, c'est-à-dire déjà plus de la moitié de l'ensemble de l'activité industrielle. Donc la quête du tourisme, la concurrence entre les espaces pour capter le tourisme et la manne financière qui l'accompagne est très importante.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons partir pour la Syrie, qui n'est pas vraiment là une destination touristique. On comprend pourquoi. Le régime syrien et son allié russe ont soumis en effet un déluge de feu les secteurs rebelles de la province de Deraa mercredi. Après l'échec des négociations avec les insurgés, une escalade inédite depuis le début de l'offensive sur cette région du sud du pays en guerre, on le sait, Sami Boukhalifa.
Frappes aériennes et tirs d'artillerie ont finalement fait plier une partie de la rébellion. Plusieurs villages de la province de Deraa, contrôlés par l'opposition, ont signé un accord de réconciliation avec le régime. Mais les rebelles sont divisés. Tous n'acceptent pas de déposer les armes. Alors, en attendant, les affrontements se poursuivent, selon Abu Zayd al-Deraoui, militant de l'opposition syrienne.
Les avions de combat ne mènent plus de frappes aériennes. Toutefois, les hélicoptères du régime ont largué des barils d'explosifs sur une localité. La situation humanitaire ne fait que se dégrader.
Pris au piège, les civils de la province de Deraa n'ont nulle part où aller. Au début de l'offensive, tous font route vers le sud, mais la porte des pays voisins reste close.
Tous les civils sont bloqués à la frontière avec Israël et la Jordanie. Ils sont sans abri, n'ont pas de tente et ils n'ont pas de quoi subsister.
Malgré cette situation, la Jordanie est catégorique. Sa frontière restera fermée. Le royaume hachémite accueille déjà près de 650 000 réfugiés syriens. Seule option, affirme désormais le chef de la diplomatie jordanienne, l'envoi d'aide humanitaire dans le sud de la Syrie.
En Russie, il n'y a pas que la Coupe du Monde de football, il y a aussi des manifestations contre une réforme drastique des retraites, réforme annoncée juste au début de la compétition. À Moscou dimanche, Paul Gogo.
Le Premier ministre Dmitri Medvedev a présenté sa réforme des retraites le 14 juin dernier, quelques minutes seulement avant le premier match de la Coupe du Monde. Cette réforme, qui doit entrer en vigueur l'année prochaine, prévoit de retarder l'âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 63 ans pour les femmes. En Russie, l'espérance de vie des hommes est de 66 ans. Beaucoup craignent de devoir travailler à en mourir, à l'image d'Andrei, 38 ans. Dimanche, ce monteur-ajusteur a répondu à l'appel de l'opposant Alexei Navalny à manifester contre cette réforme.
Il est clair que d'ici 20 à 25 ans, ce sera très difficile pour moi d'accomplir mon travail. Le fait qu'ils aient augmenté l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour les employés des services publics, pour les ouvriers, les chauffeurs, cela va être très difficile de survivre jusqu'à cet âge-là.
C'est la première fois depuis Staline qu'un président s'attaque à ce sujet sensible. Le président Poutine aurait déjà perdu une dizaine de points dans sa cote de popularité. En Russie, les femmes se voient souvent poussées vers la porte bien avant la retraite. Nombreuses sont celles à craindre une période sans travail et sans pension.
La Pologne est un pays membre de l'Union européenne et pourtant depuis mercredi, une loi prévoit une purge fort peu conforme aux standards en vigueur dans une démocratie, purge dans les rangs des magistrats de la Cour suprême du pays. Le conflit autour de cette Cour suprême polonaise a gagné en intensité mercredi. Soutenu par ses pairs et ses sympathisants, sa présidente a en effet occupé et défendu son poste, tandis que le Premier ministre a accusé la Cour d'abriter des juges ex-communistes. À Varsovie mercredi, Damien Simonard.
Entouré d'une marée de caméras et d'appareils photo, Małgorzata Gersdorf longe le bâtiment de la Cour suprême et avance au milieu d'une foule de plusieurs milliers de manifestants. Mise à la retraite depuis minuit, la présidente de la Cour est ovationnée par ses collègues juges à l'entrée du bâtiment.
Les valeurs et les principes de l'état de droit restent, alors que les gens changent et ils peuvent commettre des erreurs. C'est pour ça que les valeurs inscrites dans la Constitution sont les plus importantes et qu'il faut nous battre pour elles.
Après la mise au pas du tribunal constitutionnel par le pouvoir, la Cour suprême semble le dernier rempart pour garantir la séparation des pouvoirs. C'est elle qui décide de la légalité des élections, qui interprète les textes de loi et qui a autorité sur les juges du pays. Vodimiej, 50 ans, espère encore stopper la réforme.
Nous avons bien réussi à faire tomber le communisme qui avait un soutien bien plus puissant, notamment celui de l'armée. Maintenant que nous sommes libres, nous réussirons à défendre la démocratie.
Le bras de fer est engagé. L'opposition libérale compte désormais sur la Cour de justice de l'Union européenne pour faire pression sur la Pologne.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Thomas Dhaume, qui a écrit avec Eudes Girard du voyage rêvé au tourisme de masse, un livre publié au CNRS Éditions, livre qui est une analyse du phénomène du tourisme dans le monde. Et vous vouliez dire un mot sur le Mexique?
Oui, tout à fait.
On a entendu tout à l'heure à l'occasion de l'élection d'un nouveau président de gauche.
Oui, j'écoutais votre reportage sur le Mexique et je me disais, voilà une contradiction assez forte apparente, puisqu'on est dans un pays avec une très grande violence criminelle. Hein. On est à un conflit quasiment de basse intensité depuis 10 ou 15 ans. Et pourtant, ça reste un pays touristique, hein, avec un flux de touristes internationaux important. Et là, ça renvoie, je pense, au fait que, dans un pays comme le Mexique, comme dans d'autres pays, les sites touristiques sont finalement relativement réduits, hein, et donc on peut à la fois faire venir des touristes dans une certaine sécurité, alors que à quelques dizaines de kilomètres, la violence des gangs et des cartels est importante. Et deuxièmement, le fait également qu'il y a, de la part des autorités, comme c'est le cas en Égypte ou en Tunisie, il y a une protection sécuritaire très importante de ces sites en particulier, histoire que l'image du Mexique ne soit pas trop dégradée pour les touristes internationaux par la réalité qui s'y passe.
Alors, vous décrivez dans ce livre, qui est un tour du monde du tourisme, certaines situations où on reconstitue pour les touristes la vie dans certains lieux du monde. Par exemple, partons pour l'Asie ou au Laos, par exemple, où vous nous décrivez dans le détail ce qu'est devenu la ville de Luang Prabang. Et là, ça fait très peur.
Oui, Luang Prabang au nord Laos, hein, c'est un pays donc un de ces pays les moins avancés, hein, pendant longtemps, là qui en est sorti, mais qui a choisi pour une part le secteur du tourisme pour s'en sortir. Et donc Luang Prabang au nord Laos, on est à 700 mètres d'altitude, hein, une petite ville historique importante, hein, qui a son cachet, bon. Et qui a obtenu le label patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette question des labels est fondamentale à la fois à l'échelle nationale et mondiale avec l'UNESCO. Et alors a pu financièrement entreprendre toute une rénovation architecturale urbaine à travers ce qui m'avait frappé, l'usage de la brique rouge, comme on peut en trouver en Europe, hein, histoire que la vie dans cette petite ville soit pour les touristes beaucoup plus confortable qu'elle n'est habituellement. Hein, on est sous un climat tropical humide. Et avec également comme effet induit, c'est que le prix du foncier augmente considérablement. Donc les habitants à la fois partent chasser ou bien préfèrent en fait aller vivre en plaine. Et que les touristes qui vivent à Luang Prabang vivent essentiellement avec des touristes.
Mais aux touristes, on offre des spectacles, on offre des défilés de moines bouddhistes. Il y a une reconstitution, en fait.
Oui, tout à fait. Des marchés pseudo-traditionnels, effectivement. Le défilé des moines bouddhistes, qui est vu comme un spectacle, hein, et même certains jeunes occidentaux, comme ça, un peu routards et déshérités, se mettent eux également à faire la quête, hein, par imitation. Bon. Rajouter à cela des tenues relativement légères dans un pays où la pudeur du corps est assez élevée, et vous avez un espace extrêmement artificiel dans lequel on vient pourtant occidentaux parce que on a l'impression que là il y a une authenticité spirituelle que on a perdue en Occident.
Vous parliez des routards tout à l'heure, on est loin de cette époque des routards aujourd'hui, parce que là on est à l'ère des sites mondialement connus, soit pour la réservation de chambres, soit pour la réservation de vols, etc.
Oui, pour la plus grande partie des touristes internationaux, effectivement, le voyage est tout à fait planifié à l'avance, hein, et aujourd'hui le moyen technologique d'Internet le permet facilement. Et donc la figure du routard des années 70 s'est considérablement réduite. Ceci étant, on rencontre encore en Asie des gens qui, par choix ou par nécessité, hein, sont relativement en marge de ces circuits. On peut les croiser comme ça en guest house. Eux, ils restent à l'écart. Mais proportionnellement, ça devient résiduel.
Oui, vous parlez par exemple en France du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et vous dites que il s'est développé là aussi de façon considérable.
Oui, sur une dizaine d'années, on a dû passer de 170 à 280 000 personnes par an sur les routes de Saint-Jacques. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est encore dans une démarche religieuse ou même spirituel de manière générale, ou bien si le pèlerinage de Saint-Jacques n'est plus qu'une forme de randonnée à haute valeur spirituelle, si je puis dire, hein, si c'est pas surtout une randonnée, une manière de randonner autrement. Et par les questionnaires qu'on a fait passer, effectivement, on a pu évaluer que ce n'est plus qu'autour de 15 ou 20% les pèlerins de Saint-Jacques pour qui la dimension, même pas catholique, mais de religiosité en général, reste prépondérante.
Moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est la concurrence que se livrent tous les pays, les villes, les régions pour mettre en avant leurs atouts pour attirer le tourisme. C'était la concurrence, une concurrence effrénée même.
Oui, marketing des territoires.
Exactement.
Voilà. À l'échelle des départements, des régions ou des syndicats d'intérêt économique.
En France, mais dans le monde aussi, à l'échelle internationale. Aussi.
Oui. Et ça, c'est la question des... C'est obtenir un label qui devient déterminant. On parlait du label patrimoine mondial de l'UNESCO, qui à la fois gage d'une certaine protection ensuite du site.
En principe.
Mais également d'afflux massif. Dès qu'un site est labellisé, il y a un afflux massif. Alors qu'en même temps, cette labellisation donne les moyens de préserver, mais on est dans une tension permanente.
Oui, donc il faut à la fois faire venir et garantir
et tenter
le site.
Et tenter effectivement de préserver, de garantir.
Ça relève du défi, hein, du vrai défi.
Oui, tout à fait. Mais je vous dirais que quand on s'est lancé dans l'aventure industrielle en Europe, à la fois création de richesses, à la fois dégradation très forte des paysages, l'exploitation du charbon, la pollution. Bon, est-ce qu'il y a des activités économiques qui sont neutres ou qui ne sont que positives? C'est difficile, je pense, à trouver.
Semaine d'actualité.
Et un mot de l'actualité française maintenant, Thomas Dhaume. Le ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a présenté mercredi un plan en 90 mesures pour sauver la biodiversité, parent pauvre de l'action climatique et pourtant largement menacée. Nicolas Hulot au cœur des débats à l'Assemblée nationale cette semaine, Anthony Latier.
Combien la France va-t-elle fermer de réacteurs nucléaires? Quels engagements seront pris en faveur de la biodiversité? Y aura-t-il un plan pour développer le vélo ou pour lutter contre la pollution? Tout se joue en ce moment et cela déterminera l'avenir de Nicolas Hulot au sein du gouvernement, explique le député Mathieu Orphelin, un proche du ministre.
Si il y a des avancées suffisantes dans les prochaines semaines, je crois que ce sera la meilleure chose qu'il reste au gouvernement. Parce que partir, ça voudrait dire, d'une certaine façon, l'échec.
Sous-entendu, Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent faire des efforts s'ils veulent garder leur ministre le plus populaire. En un an, Nicolas Hulot a déjà dû reporter l'objectif de baisser la part du nucléaire dans la production électrique. Il n'a pas pu inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate et il a dû reculer dans la lutte contre la souffrance animale. Ce qui fait dire au député socialiste Olivier Faure que son bilan n'est pas bon.
Nicolas Hulot, il est là pour être l'arbre qui cache le désert et non pas la forêt. Il n'y a pas de mesure prise par ce gouvernement véritablement écologique, à quelques exceptions près. On aurait pu avancer sur la question écologique. Hélas, ce n'est pas le cas.
Ces derniers jours, le duo exécutif envoie des signaux positifs à son ministre. Nicolas Hulot attend maintenant d'obtenir du concret pour poursuivre l'aventure.
Après deux nuits de violence dans plusieurs quartiers de Nantes, causées par la mort d'un jeune homme de 22 ans, victime du tir d'un policier, lors d'un contrôle mardi soir, des milliers de personnes ont participé à une marche blanche jeudi pour réclamer la vérité, disent-ils, sur les faits. Le fonctionnaire auteur du tir a été placé en garde à vue.
Sept jours en France.
Alors revenons maintenant sur le voyage d'Emmanuel Macron au Nigeria. Cette semaine, le président français a alterné annonces culturelles et économiques et discussions sur la sécurité. Écoutez ce que disait mardi notre envoyé spécial Christophe Boisbouvier.
Lors de son discours de Ouagadougou en novembre dernier, le président français a fixé un cap. Le rapprochement entre la France et l'Afrique doit être porté par l'économie et la culture. Et de ce point de vue, le Nigeria est une terre d'élection, puisque hier après-midi à Abuja, à l'issue d'un long tête-à-tête avec Muhammadu Buhari, Emmanuel Macron a annoncé que l'Agence française de développement allait financer l'équipement de la ville de Kano en eau potable et la mise en place d'un réseau de bus rapides dans la ville de Lagos. Et hier soir, à Lagos, justement, le président français est monté sur la scène du Shrine, le temple musical de Fela Kuti, pour rendre hommage non seulement à la création musicale, mais aussi à l'industrie du cinéma, une industrie qui a créé quelque 300 000 emplois au Nigeria, c'est presque autant que le pétrole. À l'étape d'Abuja, Emmanuel Macron a aussi parlé politique avec ses hôtes, mais visiblement, ce n'est pas la priorité de sa visite au Nigeria.
L'actualité en France est aussi la disparition du cinéaste et écrivain français Claude Lanzmann, réalisateur bien sûr de Shoah. Si vous n'avez pas vu ce documentaire Fleuve sur l'extermination des Juifs d'Europe, réalisé entre 1976 et 1981, je vous conseille vivement de le faire, de le regarder et de lire aussi d'ailleurs ses mémoires intitulées Le Lièvre de Patagonie, livre publié en 2009. Claude Lanzmann venait de sortir un nouveau documentaire avec le témoignage cette fois de quatre sœurs survivantes des camps que l'on peut voir au cinéma en France en ce moment. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Thomas Adome, qui a écrit avec eux de Girard du voyage rêvé au tourisme de masse, un livre publié au CNRS Éditions. On parlait d'environnement tout à l'heure avec les ennuis, les tracas, les soucis de Nicolas Hulot. L'environnement, d'évidence, est aussi devenu un critère pour attirer les touristes.
Oui, oui, c'est à la fois c'est en réponse à une demande sociale maintenant assez ancienne, présenter effectivement des espaces comme protégés. Et bien souvent pour cela labellisé est une manière effectivement d'attirer les touristes. Hein, vous pouvez avoir en France une multitude de labels comme Natura 2000 ou même d'ailleurs les parcs nationaux créés en France au milieu des années 60. Bon, force est de constater qu'il y a une différence assez importante entre la multiplicité des labels et puis la véritable préservation de l'environnement. Bien souvent, dans ces espaces dits protégés, j'ai en tête le parc national du Luberon, par exemple, que je connais assez bien, dans ces espaces dits protégés où se multiplient les labels, en fait, le pouvoir local des municipalités, avec l'accord tacite des préfets, n'empêche pas un certain nombre de constructions ou de dégradations paysagères qui devraient, en théorie, ne pas l'être.
Au nom de l'économie.
Oui, au nom de l'économie, et puis d'une décentralisation du pouvoir qui a ses bons côtés, qui a été amorcée dans les années 80 et qui donne un pouvoir important au local par rapport à cette labellisation d'origine européenne maintenant de plus en plus importante. Et derrière donc l'image affichée d'un territoire préservé, il y a des réalités qui ne le sont pas vraiment.
Alors il faut rappeler que la France est la première destination touristique au monde, non ?
Alors, elle l'est avec 83 millions de personnes. Elle l'est aussi parce qu'il y a une petite subtilité de comptage. Et la France fait pression pour qu'on continue à l'Organisation mondiale du tourisme à compter séparément la Chine, République populaire de Chine, de Hong Kong et de Macao. Or, si on comptait ces trois espaces chinois ensemble. Ils seraient bien évidemment au-dessus de la France.
Alors, qu'est-ce qui attire à Paris, en France et Paris, justement, les châteaux de la Loire
Oui, alors
les parcs d'attractions aussi, il faut pas les.
Oui, aujourd'hui, parcs d'attractions, mais vous avez en France effectivement la combinaison à la fois d'espaces paysagers variés, relativement concentrés sur une superficie relativement importante, à la différence des États-Unis. Vous avez bien entendu un patrimoine historique très important, et vous avez également une position de carrefour en Europe qui fait que parmi ces 83 millions de touristes entre guillemets qui viennent voir la France, un certain nombre voit très vite la France, parce qu'en fait, il la traverse pour rejoindre les espaces méditerranéens. Ouais. Donc, en termes de présence touristique, numéro un, mais en termes de recettes touristiques, pas du tout.
Alors justement, tout l'enjeu des responsables du tourisme, c'est de faire en sorte que les touristes restent le plus longtemps possible, en France singulièrement, puisque nous parlons de la France.
Oui, ça c'est le grand enjeu pour la France. Hein, et si les pouvoirs publics, depuis 2013, annoncent un chiffre prévisionnel donc de 100 millions de touristes en France pour 2020, ça dissimule mal le fait que, en fait, l'enjeu est autre, hein, que de passer de 83 millions à 100, et pourquoi pas 120, c'est que ces touristes, effectivement, restent en France, n'en fassent pas, pour une partie d'entre eux, qu'un espace de transit, et donc ils dépensent de l'argent.
Avec beaucoup de sollicitudes à l'égard des touristes chinois, par exemple, qui sont de plus en plus nombreux.
Oui, oui, tout à fait. En particulier vis-à-vis des touristes chinois. Hein, François Hollande parlait de l'accueil dans les aéroports, du réseau des transports, non seulement, et ça c'est le grand enjeu, pour rejoindre Roissy à Paris, hein, qui donne un premier effet pour les touristes assez négatif. Hein, ouais. Et effectivement, bon, ceci étant, voilà, les opérateurs du tourisme chinois font bien souvent en 5 jours Paris, la Loire, Mont-Saint-Michel, Florence, Rome et les châteaux de Sicile impératrice.
Qu'est-ce qu'il en reste, hein, à votre avis, de tout ça?
Alors, il reste des achats, puisque dans ces 5 jours, même où, comme vous l'avez compris, on passe très vite sur les sites, le moment le plus important, c'est quand même d'acheter pour ramener, et c'est tout à fait sympathique, pour ramener à la famille, aux amis des objets.
Alors, j'ai découvert, Thomas Dôme, en lisant votre livre que vous avez écrit donc avec De Girard, qu'il existait un syndrome de Paris. Qu'est-ce que le syndrome de Paris ?
Syndrome de Paris, oui, qui a été théorisé par un médecin psychiatre japonais dans les années 80. C'est l'idée que un certain nombre de touristes japonais partent de leur pays avec une idée extrêmement romantique de la France, de Paris en particulier, extrêmement sympathique, sans risque, certainement également uniformément blanche. Et que quand ils arrivent à Paris, ben ils découvrent une ville cosmopolite avec un certain métissage, avec une agressivité dans le métro ou dans les transports. Et alors la rupture, le choc est brutal. Et vous avez un état dépressif, bon, qui est souvent de quelques jours, brutal, qui a entraîné dans les années 80 l'ouverture d'une consultation spécialisée à Sainte-Anne.
À ce moment-là.
Oui, par ce médecin, parce qu'un certain nombre de ses compatriotes étaient plongés dans un état de sidération dépressif.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Abdel Malik, Jules qui nous écoute à Lomé, Ibrahima à Dakar, Elias à Cotonou. Je salue Lomagui à Rufisque au Sénégal, Jean-Claude à Goma. Enfin, Oumar Sidibé qui nous a écrit pour nous dire qu'il était indigné contre l'augmentation, je le cite, du prix du carburant dans les stations de service en Guinée-Conakry.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique, Thomas Dôme, pour le Mali. Dans un premier temps, pour rappeler que les électeurs maliens ont désormais une liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 29 janvier prochain. Et pour souligner que la situation en matière de sécurité est toujours précaire dans le nord du pays. Écoutez par exemple ce reportage de Gaël Lalex avec les forces de la police malienne à Tombouctou.
18h, la patrouille de police des Nations Unies sort en ville, comme tous les soirs.
Nous nous mettons sur le terrain, escortés par les FPU, c'est des militaires, c'est des forces armées. Quand on sillonne les artères, il nous arrive que des gens nous stoppent spontanément, ou nous disent, bon, il y a par exemple un véhicule suspect qui a traversé notre quartier, un véhicule que nous ne voyons pas d'habitude.
Les officiers de l'UNPOL rapportent des incidents, mais le reste demeure entre les mains des policiers maliens. Sur le marché, Al-Mokhtar Maïga, boucher, tient son étal. Il déplore des vols quotidiens.
Ils sont ici, à Tombouctou. Ils vendent de l'argent, des motos et des vaches et des moutons. Ça arrive à tout moment.
Et vous allez voir la police?
Ah, on ne parle pas aux polices. Comment on s'en perd de la police?
Pourquoi vous avez peur de la police?
Ils sont...
Intimidé, Al-Mokhtar se détourne du micro. Lamine Cissé, un jeune chômeur, prend le relais.
Souvent, il y a des gens qui parlent à la police, les policiers les fatiguent. Normalement, les policiers doivent faire leur travail, donc c'est ce qui ne se fait pas. Donc nous, on ne peut pas voter parce que, regarde, il faut voir notre ville comment elle est.
De sa poche, Lamine tire sa carte d'électeur biométrique flambant neuve et la regarde, le sourire amer.
De l'autre côté de la frontière au Niger, cette fois, un millier de prévenus soupçonnés d'appartenir à la secte Boko Haram sont eux jugés lors de séances délocalisées en plein air à Diffa précisément. Reportage de Moussa Kaka.
Pour cette première audience, la salle du tribunal de grande instance de Diffa est remplie de monde. L'heure est à la réconciliation et à la construction d'une paix durable, a déclaré le président de la haute autorité à la considération de la paix, principal organisateur de ces séances foraines, le général Abou Tarka.
Nous voulons faire le jugement en face de la population. Nous voulons également préparer le terrain parce que, comme vous le savez, tôt ou tard, les repentis de Boko Haram qui ont fait amende honorable vont être libérés et réintégrés dans leur communauté.
Devant les chefs coutumiers, les parents des victimes de Boko Haram et les témoins, le chef du pôle judiciaire antiterroriste a été, on ne peut plus clair, il faut renforcer la cohésion sociale. Boukari Sali.
C'est juste un procès à titre pédagogique que ça serve de leçon pour voir souvent comment les gens sont libérés, pourquoi certains sont condamnés.
En appelant la population à assister massivement au procès, le procureur de la République, Cheikh Samna, donne des assurances.
Vraiment, tous les ingrédients d'un procès équitable sont réunis. Nous avons à peu près une vingtaine de dossiers pour 42 prévenus.
Au sortir de cette première audience, le représentant de la population de Diffa, Mahiru Malam Ligari, se prononce.
La population de Diffa a attendu longtemps ce procès. Que ce procès se passe chez nous, c'est encore une preuve de transparence.
Plusieurs dizaines de repentis attendent toujours leur réinsertion sociale.
Suite d'une semaine d'actualité, donc nous sommes en Afrique, Thomas Dôme, vous l'avez deviné et vous suivez ça avec attention. Parlons justement du tourisme en Afrique. J'ai appris en lisant votre livre qu'en 2016, l'Afrique avait reçu 58 millions de touristes.
Oui, tout à fait, c'est une des croissances certainement les plus importantes. Elle accompagne ce qu'on peut considérer comme l'entrée dans l'émergence économique de l'Afrique depuis une quinzaine d'années. Avec, après la décennie du chaos des années 90, bon, une stabilité politique meilleure, des infrastructures.
Selon l'Organisation mondiale du tourisme, ce nombre pourrait doubler en 2030.
Oui, bah là, on a effectivement des espaces touristiques qui ont été peu exploités. Et comme ce tourisme international recherche des espaces moins saturés, effectivement, l'Afrique est une destination tout trouvée. Et si les conditions sont réunies, celles d'une certaine sécurité et du confort, effectivement, on va assister à une croissance très très forte.
Alors vous utilisez aussi dans votre livre le terme suivant, colonisme. De quoi s'agit-il en parlant du tourisme dans le sud?
Oui, tout à fait. Colonisme pour se distinguer de néocolonialisme. Cette idée que la présence de touristes occidentaux dans les pays du sud serait une nouvelle forme de présence envahissante. Pour reprendre l'expression de néocolonialisme. Donc colonisme veut s'en détacher pour dire qu'il y a effectivement de nouveau une présence et un afflux de touristes qui va être croissant occidentaux en Afrique, mais qu'on peut difficilement le qualifier de néocolonialiste dans la mesure où il n'y a pas, ça ne s'accompagne pas d'une violence particulière, mais au contraire la recherche d'une connaissance meilleure des populations et des espaces.
Et vous parlez aussi de ce qu'on appelle le tourisme humanitaire, avec lequel d'ailleurs vous êtes assez sévère.
Oui, le tourisme
humanitaire qui s'exerce souvent en Afrique, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Le tourisme humanitaire, cette idée que par sa présence, le touriste occidental, et puis par l'argent qu'il apportera, eh bien, pourrait contribuer à développer des espaces. Bon, il y a là un certain nombre de paradoxes, en fait, derrière ce qui apparaît comme une œuvre avec des valeurs relativement positives. Bon, la présence touristique, premièrement, par principe, dénature l'espace qu'elle visite. Deuxièmement, le développement économique accroît les inégalités sociales. Et en plus, que le tourisme vient chercher comme espace traditionnel, un peu archaïque, préservé, en fait, Les populations locales, elles, rêvent au contraire d'accéder à la modernité. Et donc là, la rencontre est difficile à faire.
On peut estimer que le tourisme en Afrique va continuer à se développer. Pourquoi ? Pour des raisons d'environnement, par exemple, les grands espaces
Oui, alors c'est certainement la dimension des espaces naturels. Hein, et déjà, les parcs nationaux en Afrique australe importants oui. Sont des espaces d'accueil du tourisme. Bon, là encore, il y a un paradoxe important, hein, parce que les États qui, en Afrique australe, délimitent des parcs nationaux, exclut bien souvent par la force les populations ouais. locales qui habitaient là. Et donc, les animaux ou les espaces qu'ils exploitaient sont maintenant dévolus à l'activité touristique qui apporte une manne financière certainement, mais qui est bien entendu cette manne financière réservée à une élite, celle qui investit, qui possède ces espaces d'accueil. Donc là encore, un paradoxe important.
Sept jours en Afrique.
Cette semaine, notre envoyée spéciale, Florence Maurice, vous a proposé une série de reportages sur le difficile retour des déplacés du Poule au Congo-Brazzaville, 6 mois après la signature en décembre d'un cessez-le-feu entre le gouvernement et les partisans du passeur Toumi, les ninjas. Petit à petit, les déplacés estimés à plus de 100 000 regagnent leur village, mais le plus souvent, à leur retour, ils trouvent des maisons cassées, pillées et des champs détruits. Exemple à Sumuna, l'un des fiefs du passeur Toumi, c'est là qu'ont eu lieu les premiers bombardements en avril 2016, les villages civils alentours n'ont pas été épargnés.
Ça, c'est ma maison. Ça fait 2 ans que ma maison a été détruite.
4 murs de briques envahis par les ronces, pas de fenêtres, pas de toit. Voilà tout ce qu'il reste de la maison où Gaston Loukebao, 52 ans, vivait avec sa famille.
Il y a eu la guerre. L'hélico a bombardé pendant 2 semaines ici. J'étais même dans la forêt, aux alentours du village. Après, les militaires sont venus à pied. Cassé, n'a pas été bombardé, mais ils sont montés, ils ont enlevé les tôles. C'est ça, par exemple, ce sont les tôles. Ça, c'est la toiture, l'encadrement de la toiture. Si vous voyez même mon lit brûlé, ici à côté-là, les médias disaient que tous les gens du Poule sont des ninjas, même les civils. On était confondus. Je me sens vraiment perdu. Je n'ai plus rien. À mon âge, je ne sais pas si je peux encore reconstruire cette maison.
Cet homme est l'un des rares à être revenu à Sumuna il y a 3 semaines. Il loge dans l'ancienne école, sans eau ni électricité, en attendant qu'une ONG finisse de reconstruire quelques maisons. Ses enfants, eux, vivent toujours en forêt. Chaque jour, ils parcourent 30 minutes à pied pour les retrouver. En chemin, ils nous montrent les champs qui leur permettaient de vivre autrefois.
Ce sont les champs abandonnés. Comme on a fait 2 ans, les herbes ont trop poussé. Les maniocs sont là.
Ce sont des pieds de manioc tout pourris, en fait.
Voilà, exactement ça. On arrive à bientôt.
Un peu plus loin, dans une clairière, 4 familles ont construit des baraques avec des tôles brûlées. Isolés en forêt, ils n'ont pas encore pu bénéficier de l'aide alimentaire. Félicité, l'une des filles de Gaston, est mère d'un enfant de 3 mois.
On mange les feuilles qu'on trouve dans la forêt, qu'on mélange avec un peu de noix de palme pillée, c'est tout.
Du manioc ?
Oui, on a retrouvé un peu de manioc, mais en 2 ans, les champs se sont abîmés. On se débrouille avec ce qu'il y a, mais il n'y en a pas assez pour qu'on le vende. C'est seulement pour notre survie.
Jean-Jacques Malonga, son oncle, autrefois commerçant, ne comprend pas cette situation.
Moi, je ne suis pas un ninja et ça m'énerve. Je suis un paysan, je ne suis pas un politique. On n'a rien à voir avec tout ça, mais finalement, c'est nous les civils qui avons tout perdu.
Il serre l'enfant de Félicité dans ses bras avec l'espoir, dit-il, que l'accord de paix signé il y a plus de 6 mois maintenant lui permette d'offrir un avenir meilleur à cet enfant.
Alors terminons notre voyage en Tunisie qui fut et qui recommence peut-être à être un pays de tourisme, Thomas Dôme, à Tunis dont le maire est une femme désormais, elle s'appelle Souad Abderrahim Perrine Massi.
C'est l'explosion de joie côté Ennahda. À l'annonce des résultats, les élus islamistes se congratulent, ils s'embrassent, certains ont les larmes aux yeux, les femmes surtout. Souad Abderrahim le sait, sa victoire fera date dans l'histoire du pays.
Il est certain que l'élection d'une femme à la tête de la municipalité de Tunis est une fierté pour les Tunisiens et pour les Arabes. Cela fait plus de 2 siècles que cette municipalité existe et elle n'a jamais été dirigée par une femme. On avait ce défi, nous avons réussi, grâce à Dieu.
Souad Abderrahim a été élu au second tour avec 26 voix sur 60 contre 22 pour son concurrent Kamel Idir. Elle n'a pas obtenu la majorité absolue requise pour être élue dès le premier tour. Il lui faudra composer non seulement avec Nida Tounes, mais aussi avec les élus de l'opposition. Certains ont boycotté le vote, refusant de devoir choisir entre deux partis déjà hégémoniques en Tunisie. Nadia Aouidi, conseillère municipale Ennahda, est consciente des enjeux.
On a une grande responsabilité. Tous les 60 membres doivent travailler ensemble. On est ouvert avec tout le monde et j'espère qu'on va faire des choses extraordinaires.
Et il y a du travail. Les Tunisois espèrent que ce nouveau conseil améliorera leur quotidien au niveau du ramassage des déchets, notamment très mal géré depuis la révolution. Souad Abderrahim l'affirme, ce sera l'une des priorités de son mandat.
Suite à fin d'une semaine d'actualité, alors Thomas Dôme, revenons sur cette notion de développement durable. Vous posez la question dans votre livre, n'est-ce pas ce terme, tourisme durable, l'essence d'un oxymore?
Oui, effectivement, dans le développement durable, notion forgée à partir de 1987, hein, il y a trois dimensions, écologique, économique et sociale. Alors si on les applique au tourisme, qu'est-ce qu'on voit? Bon, du point de vue écologique, on l'a dit, le tourisme tend à la concentration sur des espaces assez réduits. Donc en termes de prix du foncier, de dégradation de l'espace, de captation de l'eau disponible, il est difficile d'imaginer un tourisme durable. Il faudrait qu'il soit étalé sur l'espace, ce qui est le contraire de la tendance. Bon, du point de vue économique, le tourisme durable, s'il arrivait à proposer des activités économiques diversifiées qui puissent profiter à un nombre important, bon, ce serait bien. Ceci étant, le touriste, il recherche des activités assez particulières, hein, visite de sites, tourisme balnéaire, bon, et ça s'arrête à peu près là. Hein, difficile d'imaginer une diversification des activités du touriste là où il vient. Bon, et du point de vue social, bon voilà, le tourisme se développe dans un espace, un enrichissement général de la société, mais en fait la croissance des inégalités forcément, et ça c'est contradictoire avec la dimension sociale.
Alors face à cette masse de tourisme, et ça sera ma dernière question, Thomas Dôme, plus d'un milliard de touristes, 1,3 milliard aujourd'hui, 1,8 milliard peut-être en 2030. Ne naît-il pas en ce moment, enfin désormais, un mouvement anti-touriste en quelque sorte? Vous parliez d'exemples de villes comme Barcelone, Venise, Dubrovnik, qui en ont assez des touristes parce qu'ils font augmenter les prix, ils restreignent l'immobilier dans les villes. Est-ce qu'il n'y a pas la naissance de quelque chose?
Alors effectivement, on voit naître des mouvements de protestation populaires à la base dans un certain nombre de quartiers, hein, dans une ville que vous avez citée, comme Barcelone en particulier. Bon, est-ce que ça suffira à arrêter ce mouvement de développement du tourisme qui est une activité de substitution en Europe très importante à la désindustrialisation? C'est difficile à envisager. Bon, et dans un pays comme la France, hein, qui est un vaste pays touristique, on ne perçoit pas encore ce mouvement de protestation, hein, la gentrification de l'hypercentre parisien, c'est-à-dire l'expulsion, économiquement parlant, des populations qui n'ont pas les moyens de s'y loger, n'a pas entraîné de réaction politique par un vote quelconque. Bon, ce sont souvent des classes sociales qui sont peu représentées politiquement, qui subissent une éviction du fait du tourisme qui se concentre dans l'hypercentre. Donc, il est difficile d'envisager que le mouvement de développement du tourisme soit bloqué par ces protestations.
Est-ce qu'il faut noter aussi, on parlait d'authenticité tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'uniformisation avec ce tourisme?
Oui, notamment parce que la labellisation tend effectivement à créer des espaces assez homogènes, parce que le tourisme attend une alimentation en fait qu'il fantase comme étant authentique, originale, mais en fait il se dirige vers hamburger, crêpe ou pizza parce que c'est le plus facile. Donc la tendance, effectivement, et c'est celle de la mondialisation culturelle en général, c'est une tendance à l'uniformisation.
Et attention donc au syndrome de Paris.
Et attention au syndrome de Paris, pour les Japonais en particulier.
Nous sommes prévenus. Merci Thomas Dôme, vous avez écrit avec Eudes Girard du Voyage rêvé au tourisme de masse, un livre publié au CNRS édition à lire particulièrement en ce moment avant de partir en vacances, justement.
Hein, tout à fait, merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous vous proposerons une émission sur le mouvement de libération des femmes, le MLF, et sur les femmes aussi. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant. Un nouveau journal sur RFI, bien sûr.